Je vous propose donc la lecture maintenant. Oui, chapitre 1, Lamentations chapitre 1. Alors, ici, il commence avec « et quoi ?» Mais en réalité, en hébreu, c'est « comment ?» Ok ? Bon, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. « Et quoi ? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. » Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion ne sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants marchaient captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenue de tous les biens dès longtemps. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nulle la console. Vois ma misère, ô Éternel. Quelle arrogance chez l'ennemi! L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Vois, Éternel, regarde comme je suis avili. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui le dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous les peuples, voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Waouh! Quel univers, hein? Prions. Ô Dieu de grâce et de bonté, nous voulons simplement te demander ton aide. Ces paroles sont des paroles qui nous touchent, qui nous parlent, qui nous interpellent et qui suscitent notre curiosité. Te demandons de pouvoir, non pas simplement nous enseigner quelque chose par rapport à un événement dramatique qui a eu lieu en ce temps-là, mais nous voulons aussi que tu nous enseignes aussi pour nous aujourd'hui, que ça soit un avertissement pour nous, pour notre vie d'aujourd'hui, pour notre génération. Conduis-nous dans cette méditation dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, ce premier chapitre plante bien le décor du drame qui vient de se jouer. Vous avez compris, il s'agit de la destruction de la ville de Jérusalem. Et qui est-ce qui fait cette complainte? Vous avez aussi compris, c'est le prophète Jérémie. En fait, c'est un drame qui a eu lieu en 587, lorsque les Assyriens ont détruit la ville de Jérusalem. Je voudrais simplement lire un petit extrait pour pouvoir mettre en scène ce qui s'est passé. Il y a des auteurs d'un livre très intéressant qui ont fait des études là-dessus et je vais juste lire un peu l'historique de cet événement-là. Vous pouvez suivre. Ce sont des événements qui sont relatés directement dans le livre des rois. Deux rois au chapitre, à partir du chapitre 17, ils racontent ce drame-là. Mais je préfère l'explication qui prend en compte l'histoire, en fait. Le livre fut écrit en réaction à la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus. Il s'agit d'une œuvre qui a été faite dans la période de l'exil du peuple d'Israël. Non, parce que tu ne sais pas afficher ça. Le texte, tu ne sais pas afficher ça. C'est autre chose. Ouais, ne t'en fais pas. C'est bien. Alors, en fait, l'exil a été l'aboutissement d'une longue période de lutte qui a opposé le peuple d'Israël avec le peuple d'Israël et de Juda avec, en quelque sorte, Dieu. En fait, Dieu avait mis déjà en garde depuis longtemps son peuple. Bien auparavant, vous savez déjà que dans Deutéronome, Dieu le dit, hein, il avait déjà mis en garde son peuple depuis longtemps par l'intermédiaire de Moïse. Il a dit, votre présence en Israël dans le pays dépendra de votre obéissance à l'alliance que je conçois avec vous. C'est ce que Dieu a dit. Néanmoins, le peuple a demeuré fidèle pendant quelques temps et plus tard, il est tombé dans la rébellion. Dieu a envoyé progressivement des prophètes pour avertir le peuple. Attention, ce que vous faites, vous êtes en train de commettre un péché et je vais sanctionner comme je vous ai déjà promis. Qu'est-ce que Dieu avait dit à son peuple? Si vous me désobéissez, si vous vous tournez vers d'autres dieux, que vous commencez à pratiquer l'idolâtrie, j'enverrai une autre nation à votre place, qui viendra vous attaquer, vous asservir, vous opprimer, et si c'est le comble, il va vous déporter, il va vous prendre, il va vous exiler, il va prendre votre territoire. Et Dieu a envoyé des prophètes pour les rappeler que les rappeler de retourner vers une relation sincère avec Dieu. Et c'est ça que le fameux, la fameuse thématique dans l'Ancien Testament avec le retour à Dieu. Revenez à moi. La spirale finale débuta avec la mort du roi Josias en 609. Josias et ses partisans avaient tenté de renverser le cours de l'apostasie religieuse en imposant des réformes au culte. Okay? Ils avaient vu le roi Josias est un des bons rois qui a essayé de remettre de l'ordre en Israël. Sous son règne, le pays fut momentanément soulagé de la domination étrangère. Mais lorsque Josias mourut au champ d'honneur, Juda devint un pion dans la lutte du pouvoir des grandes superpuissances de l'époque, l'Égypte et la Babylone. Le fils de Josias, Yehoaz, devint roi à la place de son père. Bien qu'il fût probablement un des plus jeunes fils, il lui succéda sur la base de la poursuite de la politique contre l'Égypte et pour Babylone. À cause de ce positionnement politique, le pharaon Necho, lorsqu'il fut repoussé par les Babyloniens, tenta de pouvoir affermir son pouvoir en allant déposer le roi Yehoaz. Et il a placé au pouvoir son frère Eliakim. Alors, Eliakim va arriver au pouvoir et lui, malheureusement, va être en conflit en permanence avec le prophète Jérémie. Pourquoi ? Parce que le prophète Jérémie lui disait qu'il avait fait un très mauvais choix. Nabucodonosor, que vous connaissez, le roi de Babylone, enfin le général, le babylonien, va lui attaquer l'Égypte et gagner la guerre, et puis ensuite se tourner contre l'Égypte, contre Israël. Mais Israël ne va pas accepter de le faire et Israël va tenter de se libérer de l'oppression des Égyptiens. Et malheureusement pour eux, les Babyloniens vont attaquer. Et donc, en fait, c'est avec le roi Sédécias qui va se révolter contre Babylone. Et donc, Babylone va être attaquée par l'armée. Babylone va attaquer Israël et va détruire Jérusalem en 587. En fait, le livre de Lamentations est donc un livre écrit en réaction avec cette destruction de la ville. Elle exprime l'angoisse psychologique. Elle exprime l'angoisse spirituelle dans laquelle se trouve le peuple d'Israël. Jamais, jamais, jamais les Israélites auraient pu s'imaginer un jour que leur ville serait détruite de cette façon-là. Le temple, c'est le temple de Salomon à l'époque, qui subsistait depuis 400 ans. Ils avaient une vie comme une vie qu'ils pensaient être une vie normale, une vie dans laquelle il n'y avait aucun danger. Pour eux, ils ne pouvaient jamais imaginer que Dieu ferait ça. Un peu comme un enfant qui joue avec l'autorité de son père. Et son père le prévient, si tu continues, tu auras une sanction, tu auras peut-être ça de sanction. Et l'enfant n'y croit pas jusqu'au moment où ça arrive et il est complètement déboussolé. Il s'imaginait pas que cela pouvait arriver. En fait, le livre de Lamentations, c'est un ensemble de poèmes. Il y a 5 poèmes, donc qui font 5 chapitres. Et dans les 5 poèmes qui font 5 chapitres, c'est écrit d'une manière, d'une très belle manière. En fait, si vous jetez un coup d'œil rapide dans vos Bibles, vous remarquerez que le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 4 et le chapitre 5 ont tous 22 versets. Vous savez pourquoi? Parce que chaque verset est un symbole des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Vous voyez? Et donc, le chapitre 3 en a 66. 3 fois plus. Pourquoi? Parce que le chapitre 3, c'est le point culminant de ce qu'il veut dire. on le verra. C'est le point culminant. Donc c'est un beau poème écrit vraiment dans un langage très poétique, très vivant. Et c'est, on appelle ça une élégie, c'est-à-dire une complainte. Dans le passé, lorsque des grands rois mouraient, lorsqu'il y avait des grands événements, on écrivait des chansons où l'on se plaignait, où l'on pleurait. C'est comme des chants de deuil. Okay? Et ces chants de deuil étaient en général à l'occasion des très grands événements. Vous connaissez un exemple de ça, n'est-ce pas? Il y en a un qui a fait une complainte, un chant de deuil pour un roi et son fils. Non? Si, hein? Si je vous cite le nom, vous allez pouvoir trouver. Le roi David. David a fait une complainte pour Saül et Jonathan. Lorsqu'ils sont morts à la guerre, il a fait un chant, un poème chanté. Et il se plaignait en disant, voilà, ce sont les héros, c'est les gens choisis par Dieu, et pourtant ils sont morts, etc., etc. Et ici donc, Jérémie fait une série de chants pour pleurer le malheur de Jérusalem, pour pleurer le drame qui se vit là-bas avec Jérusalem. Ça, c'est en ce qui concerne la forme. En ce qui concerne aussi la forme, vous remarquerez que dans le texte, il parle de Jérusalem comme si c'était une personne. Vous avez remarqué ça? La fille de Sion, la Vierge, il y a plusieurs termes qu'il utilise pour parler de Jérusalem. Et quand, chaque fois qu'il s'agit de parler de tout ce qui lui est arrivé comme malheur, il a parlé de Jérusalem au féminin, en parlant de la femme, de la fille. Mais vous verrez qu'à partir du chapitre 2, lorsqu'il parle de la culpabilité, de la faute, il parle alors de l'homme. Je suis un homme. Chapitre 2, vous verrez, quand on le lira, je suis un homme. Touché. C'est ça que vous avez? Je vois que tu as un œil là-dessus. Le chapitre 2, ça commence comment?
Comment Dieu dans sa colère, le Seigneur
avec une lettre. Ah, oui, moi j'ai... Ok, merci. Moi j'ai autre chose. C'est personnifié au masculin. Parce que, évidemment, il s'agit ici de la responsabilité. Le livre de Lamentations fait partie des livres prophétiques dans notre Bible actuelle. Mais dans la Bible hébraïque, le Tanakh, vous savez que la Bible hébraïque n'est pas structurée de la même façon que nous. La Bible hébraïque, c'est un peu l'Ancien Testament, notre Ancien Testament. La Bible hébraïque comprend trois parties. Il y a la loi, donc le Pentateuque, il y a les prophètes, et puis il y a les écrits. Là, ce sont les trois parties qui caractérisent la Bible hébraïque. Tandis que nous avons quatre parties dans l'Ancien Testament. Nous avons la loi, les cinq livres de Moïse, nous avons les livres historiques, les 12 livres, et nous avons les livres poétiques, les livres de sagesse, les hagiographes, et nous avons les livres prophétique. Il y en a 17 au total. Donc, le livre de Lamentations est inséré dans les livres prophétiques après le livre de Jérémie parce qu'on considère que c'est une œuvre d'un prophète. Mais, dans la tradition juive, Lamentations de Jérémie ne se trouve pas dans les livres prophétiques, mais se trouve dans les écrits. Les écrits, ce sont des recueils, c'était un rouleau de 5 livres qui étaient donc ouverts lors des cérémonies, soit dans la synagogue, lors des cérémonies, lors du culte. C'était des livres auxquels ils étaient habitués et qu'ils lisaient le plus souvent. Dans les 5 rouleaux, je ne sais pas si vous connaissez les recueils des 5 rouleaux qui caractérisent les écrits sacrés. Il y a... Bon, je dis ça juste pour votre connaissance. Il y a il y a le livre de Ruth, Lamentation de Jérémie, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques et Esther. C'est un très beau livre sur le plan de la forme, mais c'est aussi un très beau livre sur le plan du fond. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Dans le fond, le vrai auteur, la vraie source du malheur du peuple d'Israël, ce n'est pas les Babyloniens. Et, n'est-ce pas, Jérémie l'a dit à plusieurs reprises, c'est Dieu. C'est Dieu qui frappe Babylone, Jérusalem. Et il le frappe à cause du péché. J'aimerais peut-être que nous lisions un peu pour voir que le peuple d'Israël était conscient de cela. Au temps du roi, on va voir ça dans 2 Rois, au chapitre 17, 17, oui. Et nous allons voir que le peuple d'Israël s'explique les raisons. Ici, c'est pour un autre problème, mais il s'explique les raisons pour lesquelles ils ont des problèmes avec Dieu. Regardez. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre Dieu, contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre Dieu, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien et ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute la colline élevée, sur tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent Dieu, l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous ses voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point. Ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils jetèrent ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père, et ils rejetèrent ses lois. Et ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements. Oui, tu peux maintenant. Les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après les choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs filles et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Eh ben, qu'est-ce qui se passe avec Juda? Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. C'est le drame du peuple d'Israël. Et quelque part ce livre, dans le fond, est un livre qui nous rappelle la souveraineté de Dieu, mais qui nous rappelle aussi la puissance de Dieu, qui nous rappelle que Dieu est un Dieu qui est saint et il est exigeant. Ce que Dieu veut, c'est la soumission, c'est le respect, c'est l'attachement, c'est la fidélité. Parfois, le temps passe. Parfois, ce que nous faisons de mal, nous nous disons, c'est pas grave, parce que Dieu ne nous châtie pas. Nous vivons n'importe comment en se disant, après tout, Dieu ne fait rien, donc je peux continuer. Et ce texte nous rappelle que d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, Dieu exerce sa justice. Et ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même Jérusalem, c'est sa ville sainte. Ce n'est pas un peuple, ce n'est pas Ninive, ce n'est pas une ville d'Égypte, c'est le lieu où demeure la gloire de Dieu. Pourtant, Dieu va la frapper d'une manière incroyable. Peut-être là, ça peut nous emmener à nous dire, attention à nous aussi. Attention à notre façon de marcher avec Dieu. Attention à prendre l'habitude de fricoter avec le péché, de vivre une vie où nous prenons un peu trop notre liberté et où nous faisons le mal constamment. Mes amis, apprenons à écouter. Si quelqu'un veut te dire, Gaston, tu es toujours en train de dire ça ou de faire ça, arrêtons-nous. Écoutons et considérons ce qu'on nous dit. Si quelqu'un vient nous faire un reproche, ne nous défendons pas toujours. Écoutons et considérons ce reproche. Si quelqu'un vient me dire, écoute, tu agis mal là-bas, je dois aussi apprendre à écouter, à me remettre en question. Notre génération est une génération qui a été pervertie à cause de l'orgueil. Nous n'aimons pas nous remettre en question. Alors, à cause de cela, nous risquons d'entretenir un péché ou d'ouvrir la porte à la vie du péché. De sorte que nous allons nous croire encore debout, nous allons nous croire encore chrétiens, nous allons nous croire encore vivants alors qu'on est complètement mort. Comme Jérusalem. Elle était belle. Elle était splendide. Elle vivait sa vie en se disant, nous sommes l'antre, le lieu où Dieu demeure. Personne ne peut nous toucher. Ce peuple a vu des miracles. Mais il ne savait pas qu'un jour, Dieu pouvait exercer sa colère. C'est un bel avertissement. C'est un bel avertissement qui nous rappelle combien c'est important. Bien sûr, ce livre est aussi un livre qui pose la question de la souffrance d'un peuple. Aujourd'hui, je peux faire écho avec ce texte, avec le peuple qui souffre dans tout le monde entier. Je peux faire écho avec le peuple qui souffre dans le sud, dans le sud Kivu. Je peux faire écho avec le peuple qui souffre au Nigeria, avec Boko Haram. Je peux faire allusion à tous ces gens qui se disent, est-ce qu'il y a un Dieu ? Dieu nous a frappés. Dieu nous a-t-il frappés ? L'enjeu de tout le livre ici, c'est de savoir, est-ce qu'un Dieu qui frappe comme il a frappé, peut-il laisser son peuple souffrir indéfiniment ? Est-ce que cette souffrance, et vous allez voir quand on va lire le texte, que c'est une vraie souffrance, hein. Jérusalem est entrée dans une étape de souffrance incroyable, indescriptible. Est-ce que Dieu peut-il laisser cela ? En même temps, ça doit nous faire comprendre la conséquence du péché, l'horreur du péché, l'horreur de la désobéissance. Ce livre révèle aussi le personnage de Jérémie. Autant dans le livre proprement dit de Jérémie, on ne le voit pas comme ça. Ici, Jérémie se présente comme un homme qui aime vraiment son peuple, qu'il aime au point de souffrir au plus profond de lui-même, au point d'être déchiré. Est-ce que, peut-être, là aussi une question, est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu au point que quand ça va mal, nous en souffrons. Est-ce que nous aimons Dieu ? Est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu ? Est-ce que nous aimons le peuple de Dieu au point que quand un souffre, nous sommes déchirés au plus profond de nous. Jérémie était profondément malheureux. Et dans notre monde où l'indifférence et l'individualisme nous rendent insensibles au malheur des autres, l'attitude de Jérémie est vraiment un modèle à imiter, à suivre. Mais Jérémie n'est pas seulement quelqu'un qui souffre, qui l'exprime, c'est aussi quelqu'un qui cherche une solution. Et c'est un homme qui croit et qui espère que Dieu peut-il encore faire quelque chose. Et d'ailleurs, ce livre se termine avec cette question. Est-ce que Dieu fera-t-il grâce? Pardonnera-t-il? Agira-t-il favorablement après cette souffrance? Voilà, ça c'est en guise d'introduction pour ce livre. J'espère que ça vous donne envie de l'étudier, de le lire. Alors, trois thèmes, je vais parcourir trois thèmes. Le premier thème, c'est le thème du jugement. Le deuxième thème, c'est le thème de la repentance. Et le troisième thème, c'est le caractère des dieux. Alors, je vous invite à aller lire le livre et à vous poser la question, qu'est-ce que ce texte m'enseigne concernant le jugement, concernant la repentance, concernant le caractère des dieux. Et que ainsi, ça nous aide, ça nous nourrisse et ça nous fasse grandir. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la prédication. Et merci en tout cas d'être là, parce que c'est encourageant quand même d'être à quelques-uns là. Même si on n'est pas tous là, c'est chouette, c'est encourageant. Et nous allons prier pour que le Seigneur imprime sa parole et mette en nous le désir d'aller encore plus loin dans la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, merci pour l'introduction à cette lamentation, à ce livre de lamentation de Jérémie. Seigneur, que tu nous conduises et nous aides à mieux la comprendre et surtout à saisir ce qui est important pour nous encore aujourd'hui. Seigneur, et éclaire-nous encore et encourage-nous. Donne-nous l'occasion de pouvoir lire le livre, de lire le texte et de pouvoir l'utiliser aussi pour notre vie. Conduis-nous encore au nom de Jésus. Amen.